Installez-vous confortablement pour écouter la sélection proposée par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Romans, essais, livres de poche, BD, il y en a pour tous les goûts, hein, chaque semaine. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous débutons avec vous Christelle.
Alors cette semaine, ce ne seront que des romans et des grands romans. Alors le premier dont je souhaitais parler, c'est le dernier roman de Cécile Coulon qui s'appelle « Le visage de la nuit » aux éditions de l'Iconoclaste. Donc dernier roman, gros coup de cœur. Je dirais vraiment un talent toujours renouvelé, une plume de plus en plus affirmée et exceptionnelle de mon point de vue. Et donc c'est un roman sous forme de conte cruel avec une histoire fascinante oscillant entre le jour et la nuit, un des fils rouges du roman. Alors direction à nouveau, et je mets entre guillemets, au fond du puits, ce village perdu, sombre, enclavé entre deux collines et surtout totalement hors du temps. Et dans ce village, l'autrice nous propose de suivre le destin de trois enfants. Le premier de ces enfants a 7 ans quand débute le roman. Et il est atteint d'une grave fièvre. Il se retrouve sauvé, soigné, mais totalement défiguré. Un monstre. Dès lors, l'enfant est abandonné par le père, fou de rage, de désespoir et de chagrin. Il va être recueilli par le prêtre du village qui va l'élever. Et par l'ancienne institutrice. Et la seule règle qui est imposée à l'enfant, c'est de ne jamais sortir le jour pour éviter le regard des autres et la cruauté des autres. Alors cet enfant, il va étudier le jour et la nuit va devenir son domaine. Il va explorer la nuit jusqu'à reconstituer des carcasses d'animaux afin de leur redonner leur lettre de noblesse, leur redonner finalement de la beauté. Et au cours de ces explorations nocturnes, il va rencontrer une bien étrange jeune fille, étrange, secrète, mais dont le frère, d'une grande beauté, vit lui aussi, totalement dissimulé aux yeux des villageois. Et je n'en dirai pas plus. Sinon que, sous la plume vraiment sublime de l'autrice, eh bien, ces enfants prennent vie dans un paysage vraiment énigmatique, dans un paysage plein d'ombre. Et je peux vous assurer qu'il y a une tension narrative qui vous prend dès les premières pages. Et c'est une écriture que j'ai trouvée extrêmement sensorielle, même organique, ciselée et poétique. Vraiment du grand art. Et puis peut-être une conclusion sous forme de fable. À savoir que le mal n'est pas nécessairement là où on l'attend, et la beauté peut surgir de l'obscurité et de ce qui a été brisé. Voilà, donc un beau et grand roman que ce dernier roman de Cécile Coulon qui s'appelle « Le visage de la nuit » aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, on continue à égriner cette rentrée littéraire d'hiver qui est décidément extrêmement riche et qui nous réserve vraiment de très belles surprises ou des confirmations. Et là, vraiment, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est sorti début février. Donc, American Spirits de Russell Banks aux éditions Actes Sud. Alors, Russell Banks, immense auteur américain, regretté puisque malheureusement il est décédé en 2023 et il nous a laissé, un livre posthume qui est absolument exceptionnel. American Spirits, c'est trois nouvelles de 80 pages, 85 pages chacune, qui se passent dans une petite ville du nord de l'État de New York, donc aux confins des États-Unis, vraiment à la frontière avec le Canada. Et on est durant le premier mandat de Donald Trump, hein, donc 2018-2019. Alors, moi, je suis toujours impressionné par Russell Banks, que je lis depuis pas mal d'années, par sa capacité, de livre en livre, à nous plonger en quelques pages dans la vie des Américains moyens et de nous permettre d'humer et de comprendre ce pays qui, il faut bien l'avouer, nous interroge, nous fait poser plein de questions, et surtout en ce moment. Alors, dans ces courtes nouvelles, beaucoup de thèmes sont abordés. D'abord, l'électorat de Donald Trump. Hein, effectivement, il ne faut pas se cacher. C'est dans ces régions des États-Unis qu'effectivement son réservoir électoral. Et donc là, il va mettre en scène des gens qui ont voté pour Donald Trump. Il va aussi nous montrer la précarité de ces populations, l'omniprésence des armes à feu, de l'alcool, de la drogue aussi pour les plus jeunes. Et puis surtout, par touche, tous les petits et les multiples conservatismes de cette Amérique rurale et cabossée, qu'on voit pas trop, mais qui finalement représente quand même une grande majorité d'Américains. Vraiment, j'ai énormément aimé ce livre. Hein. On est vraiment sur un livre qui se lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir. L'écriture est absolument somptueuse, comme toujours avec Russell Banks. Et c'est vraiment un livre que vous ne lâchez pas, parce qu'il y a une vraie tension narrative dans les trois nouvelles. Hein. Vraiment, vous vous demandez où il va vous emmener. Et puis, j'allais dire, c'est ce que j'aime dans certains livres. C'est vraiment un livre qui a une qualité à la fois de susciter des émotions. Vous ressentez des émotions, surprise, colère, incompréhension, voilà, empathie. Et puis, réflexion. Vous interrogez aussi beaucoup sur cette population et sur ce pays. Je serais tenté de vous dire, vraiment, lisez, c'est à lire absolument, si vous voulez comprendre une portion d'Amérique. Et au-delà de ça, lisez tout Russell Banks, qui est bien entendu publié chez Actes Sud, tout en poche, hein, la collection Babel. C'est vraiment un très très grand auteur qui nous a malheureusement quitté en 2023 et qui nous laisse un dernier livre qui vous fait dire quel dommage, parce qu'il avait encore plein de choses à dire sur notre société. Alors, j'aime bien toujours, quand on a le temps, de vous faire humer. Alors, rien que les titres des trois nouvelles, j'aurais pu vous parler un petit peu du thème des nouvelles, mais je ne vais pas le faire. Il faut vraiment que vous le découvriez. La première s'appelle « L'homme de nulle part ». La deuxième s'appelle « École à la maison ». Et la troisième s'appelle « Kidnappé ». Et je vais vous lire juste la première page de « L'homme de nulle part ». D'après ce que l'on m'a dit, tout a commencé un samedi matin où Doug essayait de faire la grasse matinée pour résorber l'excès d'alcool auquel il avait une fois de plus cédé le vendredi soir au Spread Eagle. Pendant ce temps-là, au sous-sol, Debbie veillait à ce que les gosses ne fassent pas de bruit. Debbie et les gamins décoraient les boîtes « Merci pour votre engagement » qui allaient être envoyées aux réservistes de Fort Pierce, stationnés en Afghanistan. C'était il y a 3 ans, à l'automne, avant l'ouverture de la chasse. Sinon, Dog aurait été dehors de bonne heure. Ce qui nous situe vers la fin du mois d'octobre, peu après l'envoi de la 2e brigade de la 10e division de montagne en remplacement de la 1e brigade dans le cadre de la mission antiterroriste des États-Unis contre Al-Qaïda. Debbie et son association, St. Agnes Ladies Aid Society, avaient appris à quel point l'hiver est rude dans les montagnes d'Afghanistan et avaient passé l'été à tricoter des bonnets de laine, des moufles et des écharpes pour les réservistes de la 2e brigade. Ce n'était certes pas l'aube, il devait être 9h, 9h30 ou 10h, mais Doug était encore à moitié endormi quand les coups de feu venant du champ de tir de Zingerman firent irruption dans ses rêves brouillés par la gueule de bois, comme du pop-corn lancé dans un four à micro-ondes à côté du lit. Il repoussa les couvertures et resta un moment assis au bord du matelas, les épaules affaissées, sentant son corps long et maigre se remplir du bruit des détonations provenant des collines derrière les bois. Des fusils semi-automatiques, AR-15 et AK-47, 3 ou 4 en même temps. Et voilà, le ton est donné et vous allez avoir une nouvelle qui va vous plonger vraiment dans cette Amérique rurale où les armes, l'alcool sont omniprésentes et qui vont vous faire comprendre un certain nombre de choses. Voilà, bref, je répète le titre, American Spirits de Russell Banks, un très 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 grand livre que j'ai adoré.
Merci Sylvain et Christelle.
Alors moi aussi, un grand livre, un énorme coup de cœur pour ce titre qui vient de sortir en poche aux éditions Asphalte, qui s'appelle « Le tumulte et l'oubli » de Timothée Demeyer. Donc un livre que je n'avais pas lu lors de sa première parution. Et comme je le disais, vraiment un gros, gros coup de cœur. Et pour moi, probablement parmi les meilleurs romans historiques lus ces dernières années. Parce que je parle vraiment d'un très, très grand roman, d'une fresque magistrale. C'est dense, c'est profond, c'est instructif et salutaire pour tenter de continuer à comprendre le monde et peut-être ce monde en guerre qui se répète. Alors le roman débute par un discours glaçant d'Hitler en 1938, plein de relents nationalistes justifiant l'annexion des Sudètes. Alors vous avez une petite carte hein, au début du roman qui vous permet, pour celles et ceux qui l'ignoraient, de situer les Sudètes. C'était donc une région de la Tchécoslovaquie dont la population est principalement composée de germanophones. Donc c'est le début du roman. Et à partir de là, de 1938 à 2017, l'auteur déroule au fil d'une série de récits de vie entremêlés l'histoire d'une petite ville des Sudètes, alors Jedlov, petite ville de Bohême qui prendra ensuite le nom de Tannberg pour redevenir Jedlov. Et donc c'est dans cette petite ville, alors complètement imaginaire, hein, que l'auteur plante le décor de cette très très grande fresque historique. On va suivre plein de destins, mais notamment, pour en citer quelques-uns, on va suivre les destins de Sieglinde et sa mère, obligés de fuir leur ville avec l'arrivée des Russes pour trouver refuge en Allemagne. De Mirko, on a une petite tendresse pour Mirko, l'éternel amoureux et rédacteur de petits carnets, témoin de son histoire et de l'histoire. D'Ivetka, là aussi, on a un petit faible pour Ivetka, jeune fille tzigane qui, elle, alors grâce à l'appareil politique communiste, s'émancipera et deviendra la première tzigane à faire des études et puis à devenir même écrivaine. Et on suivra la descendance et plein d'autres, la descendance de tous ces personnages et de plein d'autres personnages. Donc des personnages qui vont être finalement tantôt victimes, tantôt oppresseurs, voire profiteurs. Alors les fils à suivre sont nombreux, hein, parce que c'est vraiment un roman dense, mais encore une fois, tout est construit vraiment avec brio pour offrir une densité romanesque et une intensité émotionnelle qui vous étreint régulièrement. Et en même temps, l'auteur nous rend vraiment témoin de l'histoire avec un grand H, et apporte une réflexion vraiment puissante et documentée. On voit qu'il connaît son sujet et cette zone géographique sur la complexité aussi de l'identité. Puisqu'on va avoir des Sudètes qui méprisent les Tchèques qui s'en vengent à la chute d'Hitler, et puis les Tziganes massacrés par les nazis, puis victimes, j'allais dire presque du racisme ordinaire des Tchèques à la libération, et même des Tchèques après la révolution de velours. Donc encore une fois, vraiment un roman remarquable, même si, comme je le disais en introduction, se dégage une forme de désespérance devant l'éternel retour des haines nationalistes et racistes. Mais retenez aussi que c'est vraiment une grande, grande fresque romanesque et historique, ambitieuse, mais toujours fluide, et une réflexion beaucoup plus large sur la mémoire collective, sur le rapport au passé et notre facilité justement à osciller entre le tumulte des événements et la tentation de l'oubli pour effacer ou réécrire l'histoire selon les besoins du présent. Donc vous voyez que c'est un roman qui s'ancre aussi particulièrement dans notre actualité, et au-delà, c'est vraiment un grand, grand roman que je recommande fortement. Donc Le tumulte et l'oubli de Timothée de Meyer aux éditions Asphalt.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, moi je vais vous parler d'un, on parle souvent d'un, de livres de poche aussi dans cette émission, et là je voudrais vous parler d'une très belle découverte que j'ai faite ces jours-ci grâce à la sélection 2026, donc du prix 10-18 des libraires. Alors, section Polar, parce que 10-18, bon, c'est une collection de livres de poche qu'on aime beaucoup, et on fait chaque année le prix des libraires. Ils proposent à la lecture 5 ou 6 titres en polar, et puis un autre prix, 5 ou 6 titres en littérature blanche, et ils proposent ensuite aux libraires donc de voter et d'attribuer un prix. Alors là, ils ont dans leur sélection, et on reparlera peut-être d'autres titres coup de cœur, mais en tout cas, celui-ci, c'est un grand coup de cœur, ils ont exhumé un livre donc qui a été écrit en 1964 par un auteur, Ed Lacy, que je ne connaissais pas, qui est un auteur de romans noirs américain, qui est décédé fin des années 60, qui était un auteur qui a écrit tout d'abord sous pseudonyme des romans sociaux et engagés, hein, sur les États-Unis, et puis ensuite il a dérivé vers le roman noir, et celui-ci c'est un pur roman noir. Alors la Mort du Torero, ce roman, nous conte en fait l'enquête d'un détective privé qui est un Afro-Américain, il vit à New York, d'ailleurs c'est au passage le premier détective privé noir américain, hein, dans la littérature américaine, et dans ce livre, en fait il a un travail, mais pour joindre un peu les deux bouts, de temps en temps il fait une enquête avec un ami qui a une agence de détective privé. Et cet ami lui propose un contrat pour aller enquêter donc à Mexico, au Mexique, sur la mort d'un journaliste. Alors la veuve demande à un détective, parce que son mari donc est mort dans des circonstances accidentelles, que je ne vais pas relater puisque c'est très important dans ce roman, le suspense, et elle n'est pas persuadée que sa mort soit vraiment un accident, mais elle pense plutôt à un crime ou un meurtre. Et donc elle va engager ce détective privé qui va arriver au Mexique, un pays qu'il connaît absolument pas, et il va essayer de démêler un peu les fils de cette enquête dans laquelle il y a un torero, puisque le journaliste qui est décédé est un des journalistes qui au Mexique couvrait la tauromachie, et il écrivait régulièrement des articles ou des chroniques sur les toreros, et notamment sur un torero en particulier, qui est une star absolument incontestée dans son pays, mais qui éveille quelques soupçons. Alors, est-ce que c'est à dessein, est-ce que c'est vrai? C'est ce que le livre va nous révéler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au départ, c'est assez simple, hein, c'est un livre assez court, l'écriture est assez directe, il n'y a pas de fioritures, c'est vraiment le pur roman noir où vous avancez dans une enquête qui est un peu... Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que au fil des pages, l'enquête va s'avérer un peu plus complexe et risqué, surtout dans un pays que ce détective, bien sûr, ne connaît pas. Lui, c'est un New-Yorkais pur sucre, et il débarque, il ne parle même pas espagnol. Et donc, du coup, c'est un petit peu difficile pour lui, surtout vu ce qu'il va avoir en face à gérer. Voilà, donc, vraiment, vous l'avez compris, on est dans un pur roman noir, hein, dans la tradition américaine, j'allais dire dans la tradition d'un auteur que j'aime beaucoup aussi, comme Raymond Chandler, hein, qui font ce type de roman dans les années 50, 60, 70, où vraiment on a une atmosphère et en même temps une enquête avec une petite voilà, surprise à la fin. Et vraiment, moi j'ai pris énormément de plaisir à lire ce roman. Alors peut-être qu'il est un petit peu daté, mais en même temps c'est avec un vrai plaisir. Vous avez le sentiment de lire quelque chose de très convaincant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a emmené dans les années 60, du côté de Mexico. En plus, il y a un petit aparté à Acapulco, puisqu'il va aller mener l'enquête de ce côté-là. Voilà. Bref, c'est une lecture très, très agréable. Et j'étais vraiment très, très heureux de découvrir, grâce à cette sélection là du prix des libraires 10-18. Donc voilà. Et je continuerai peut-être à vous parler d'autres coups de cœur. Mais celui-ci en est vraiment un. Est-ce que je voterai au final pour ce livre? Je ne sais pas encore, mais voilà, mes lectures continuent. Merci. Alors, je vous rappelle le titre, pardon, Ed Lacy, La mort du torero, aux éditions 10-18.
Merci à tous les deux pour vos choix. Nous terminons avec les animations ici à la librairie indépendante à Saint-Gaudens. Et nous commençons avec vous, Sylvain.
Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup d'animations là, qui arrivent. Alors là, celle qui arrive prochainement, c'est mardi, on en a déjà parlé, mardi 17 mars à 19h. Nous avons un atelier, on a le plaisir d'accueillir une photographe poétesse qui viendra donc proposer un atelier poème collage. Alors c'est très simple, hein, il faut s'inscrire parce qu'il reste encore quelques places, mais pensez à vous inscrire. Et donc là, le principe, c'est vraiment avec des morceaux de journaux ou de magazines de composer des textes et des poèmes avec l'aide, bien entendu, de cette poétesse qui va venir à la librairie. Donc c'est un atelier. Alors, il y a une petite participation symbolique, c'est un prix libre, hein, au chapeau. Mais par contre, il faut bien penser à s'inscrire parce que, bien entendu, le nombre de places est limité. Donc ça sera mardi 17 mars à la librairie à 19h.
Christelle.
Et donc la semaine suivante, un mercredi cette fois, le mercredi 25 mars, toujours à 19h, eh bien, on a la grande joie d'accueillir Hugo Boris pour son tout nouveau roman qui s'appelle « Regarde-moi tomber mon amour ». Alors, amateur de montagne, d'escalade, de sensations fortes, ce roman est pour vous, puisque dans ce roman, on va suivre l'histoire d'Arnaud, un sauveteur, un secouriste de haute montagne chevronné, mais pour qui, effectivement, la vie va basculer à un moment suite à un sauvetage raté. Et je n'en dirai pas plus puisque ce sera l'occasion d'échanger avec Hugo Boris. Et puis Avril, ne te découvre pas d'un film, mais Avril va être marqué aussi par plusieurs événements, dont une pièce de théâtre. Vous voyez, c'est une grande nouveauté. Le jeudi 2 avril à 20h30, hein, horaire un petit peu décalé. Donc là, pour cet événement, il faut aussi s'inscrire à la librairie puisque la jauge est limitée autour d'un spectacle qui s'appelle « Étymologie des contrariétés » de Jean-Marc Tuillier, voilà, que beaucoup connaissent déjà dans le Comminges. Et puis ensuite, on enchaînera avec la quatrième édition du Festival de littérature jeunesse, Vitamine L. Et puis après, on met d'autres surprises, mais on y reviendra.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Merci.